RCF.
9h, 11h, Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Dans quelques jours, les Français seront appelés aux urnes. Le Rassemblement national étant aux portes du pouvoir, rarement une élection aura suscité autant de tensions politiques et sociales, y compris parmi les chrétiens. Mais comment discerner ce qui est juste et qui va dans le sens des valeurs évangéliques? On va regarder ça plus près ce matin avec nos invités. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que la prière vous aide dans votre vie de citoyen? Comment votre vie spirituelle d'ailleurs oriente-t-elle les décisions que vous avez à prendre dans votre vie, qu'elles soient petites ou grandes? Et puis connaissez-vous les exercices spirituels de Saint Ignace? Les avez-vous déjà pratiqués ou aimeriez-vous tenter cette expérience? 04 72 38 20 23 pour réagir, par mail également à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Bonjour Véronique Alzieu.
Bonjour Melchior et bonjour à tous.
Eh ben c'est parti.
C'est à moi.
Oui, c'est à vous. C'est votre dernière émission, je crois. D'ailleurs,
d'accord.
Je tiens à le dire avant de démarrer.
Bah écoutez, vous me la prenez.
Dernière émission de Je pense donc j'agis cette année, je tiens à préciser.
Qui d'entre nous, au moment de prendre une décision, n'a pas pris une feuille, fait deux colonnes, une pour les avantages, une pour les inconvénients, et a jeté des mots sur le papier pour essayer d'y voir plus clair? Si la méthode peut aider, elle a aussi ses limites. Une autre méthode a fait ses preuves, c'est celle dont il va être question dans cette émission. Il s'agit donc du discernement. D'un point de vue étymologique, discerner, ça veut dire distinguer. Quand la situation est confuse, trouble, qu'elle paraît inextricable, un travail de discernement peut aider à faire un choix et à prendre une décision. Celles et ceux qui vivent à la suite de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, sont coutumiers de cette pratique qui, on va le voir, conduit à descendre dans les profondeurs de l'âme, à faire silence pour se mettre à l'écoute de ce qui fait de nous des vivants, avec un V majuscule. Car au fond, c'est ce qui est en jeu, être des vivants, des femmes et des hommes debout qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors que, vous l'avez rappelé, nous sommes appelés aux urnes dans quelques jours et que ce qui sortira du vote des Français peut avoir des conséquences très inquiétantes, pourquoi ne pas s'inspirer du discernement ignatien pour faire un choix ? Dans cette émission, il faut absolument le préciser, il ne sera pas question de politique. Il sera question d'intériorité, de motion intérieure et finalement de la vocation de tout homme selon la foi chrétienne, suivre le Christ.
Et pour en discuter jusqu'à 10h, Véronique, on a le plaisir d'accueillir ce matin deux invités.
Sylvie Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes religieuse auxiliatrice. Vous êtes tout à fait au fait des exercices spirituels de Saint Ignace et de ce dont nous allons parler, le discernement. Vous faites de l'accompagnement spirituel et vous pratiquez le discernement. Nous avons également avec nous le père Bruno Réjean. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jésuite, Bruno Réjean, et vous êtes accompagnateur spirituel. Je précise que vous êtes le supérieur de la communauté jésuite qui se trouve à Lyon, sur la Presqu'île, donc en plein centre-ville. Sylvie Robert, je vais commencer par vous donner la parole en vous demandant ce qui caractérise la spiritualité ignatienne, pour commencer.
Ah, alors
de manière un peu générale.
Oui. Je crois que, et c'est là où le discernement prend tout de suite sa place, c'est l'art de chercher et trouver Dieu dans l'ordinaire de sa vie, dans le plus concret, autrement dit, s'accorder au désir de Dieu pour l'humanité, dans notre quotidien, dans nos attitudes, dans nos choix, dans nos manières de vivre. Voilà, en très gros, je dirais cela. Il y a une expression qu'on trouve souvent sous la plume d'Ignace, c'est « chercher et trouver la volonté de Dieu dans la disposition de sa vie ». Comment s'accorder au désir qu'a Dieu que nous vivions et que nous propagions la vie.
Bruno Réjean, qu'est-ce que vous ajouteriez? Qu'est-ce que vous diriez de plus?
Ah, j'entends le premier mot que dit Sylvie, c'est chercher. Ça veut dire, si quelqu'un sait, Il y a rien à dire, il n'y a rien à discerner, on est en dehors d'un discernement ignatien. Ça suppose d'avoir un désir de ne pas simplement se contenter de sa volonté propre et de ce que je sais, mais d'avoir des oreilles qui écoutent, qui entendent et qui se disent le bien, mais au sens de Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui serait utile? Comment je peux donner ma vie? Comment je peux y donner sens? Voilà. Donc l'écoute est essentielle.
Alors on va faire un tout petit peu d'histoire en rappelant en quelques mots la trajectoire d'Ignace de Loyola pour voir justement dans quelle mesure son histoire personnelle explique les caractéristiques que vous venez de présenter là. Qu'est-ce qui dans sa vie a fait que cette recherche de Dieu et de la volonté de Dieu est centrale, Bruno Réjean?
Il a commencé par avoir une volonté propre formidable. C'est-à-dire, il voulait être reconnu, il voulait exercer des responsabilités, il voulait être chef, il voulait être généreux et donner sa vie devant un applaudissement du monde. Dans le siège de Pamplume, il est soldat héroïque à se battre contre les Français jusqu'au bout et au-delà du raisonnable. Et un peu à la fois, il va découvrir qu'il y a à l'intérieur de lui ce qu'il découvre être des mouvements, des motions, des manières d'être attiré qui le déplacent, qui lui font faire un chemin intérieur. Et du coup, il s'interroge en se disant « Mais qu'est-ce que c'est qui se vit à l'intime de moi ? Qu'est-ce qui se passe ? D'où cela vient ? Qu'est-ce que j'en fais ?» Voilà. Et c'est un très long itinéraire qui va durer 10 ans, avec notamment des grands moments de solitude, de retraite, de tentation, de très grande ascèse, etc., pour, tout en étant accompagné, tout en faisant des études, pour finir réellement se mettre au service du réel.
Alors Sylvie Robert, qu'est-ce que vous diriez de plus concernant l'itinéraire de Ignace de Loyola, qui, je le rappelle, est né à la fin du XVe et a vécu l'essentiel de sa vie au XVIe siècle?
Je soulignerais tout à fait ce qu'a dit Bruno Réjean. C'est tout un chemin. Je soulignerais peut-être que dans le récit qui a été fait, qu'Ignace a fait de sa vie, il indique comment sa première découverte de ses mouvements intérieurs, c'est une découverte des choses de Dieu. Autrement dit, comment Dieu est concret dans sa vie, comment Dieu lui parle. Et je pense que cette affaire des mouvements intérieurs, elle est très importante. Peut-être aujourd'hui particulièrement importante dans le sens où nos contemporains sont beaucoup à la recherche d'une intériorité. Mais souvent d'une intériorité qui vise le bien-être personnel. C'est toutes les affaires autour du développement personnel en particulier, ou bien qui se confond un peu avec ce qui est davantage psychologique ou émotionnel. Or, les mouvements dont parle Ignace, c'est beaucoup plus profond. C'est de l'ordre justement de ce qui fait croître en nous le dynamisme de vie selon Dieu, le dynamisme de vie que Dieu a mis en nous. Alors, c'est-à-dire finalement... Oui, c'est-à-dire finalement ce qui permet de grandir dans la confiance en Dieu, en autrui, dans l'espérance et dans la charité.
Alors, il va falloir distinguer les deux mots, les plus loin, motion et l'émotion, oui, avec un L apostrophe.
Oui, tout à fait.
Comment est-ce qu'ils sont nés les exercices spirituels de Saint Ignace qui consistent donc à se mettre à l'écoute, à chercher Dieu en essayant de pratiquer un discernement et puis à terme, dans la plupart des cas, de prendre une décision, de faire un choix, parfois un choix de vie, Sylvie Robert?
Oui, ils sont nés justement à partir de l'expérience d'Ignace. C'est pas une théorie, mais c'est l'expérience qu'il a faite, comme le rappelait Bruno tout à l'heure. Cette expérience que des projets, des événements, des idées, des paroles, des attitudes produisent en nous des mouvements plus ou moins profonds, plus ou moins durables. Et c'est en observant cela qu'il s'est ouvert à Dieu, qu'il a commencé à vivre avec ce souci constant de découvrir Dieu dans sa vie et de découvrir le Christ.
Mais après, la famille ignatienne s'est en quelque sorte emparée de cette tradition, Bruno Régent, et en a fait une sorte, alors je ne sais pas si le mot est approprié, mais une sorte d'outil dans la vie spirituelle. Est-ce qu'on peut parler comme ça?
Tout à l'heure, vous parliez des deux colonnes de discernement.
Oui.
Ça peut être un outil, mais effectivement, ça n'est pas la fine pointe du discernement. Parce que, au niveau des deux colonnes, vous avez ensuite à peser. Et chacun a une manière de peser avec son cœur. Voilà, je crois que dans
et
la
son
vie...
histoire et sa psychologie, enfin, il y a des tas de trucs qui entrent en ligne de compte.
Oui, j'aime bien François de Sales qui dit que vous en soyez conscient ou non, la fine pointe de votre décision au moment où vous passez à l'acte, c'est une question de cœur, c'est-à-dire du plus intime et non pas des raisons. Voilà, on n'obéit pas, on ne se fie pas qu'à des raisons. Il y a un moment où vous dites « j'y vais ». Et ce passage à l'acte vient du plus intime.
Et donc, le discernement ignatien et les fameux exercices consistent à prendre un temps, en général, précis, et à se mettre, à utiliser cet outil ignatien.
Ça veut dire, si je continue sur cette question du cœur, vous arrivez dans les exercices avec une question qui est par exemple, est-ce que je change d'entreprise, je change de boulot, j'ai un appel d'offres, ou bien est-ce que je reste dans mon entreprise? Et vous faites un travail non pas sur ce choix, mais sur votre cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, vous attire dans un sens ou dans un autre? Et du coup, vous découvrez dans ce parcours, à l'intérieur de vous-même, que vous êtes attaché à tel type de reconnaissance, à tel type de bien, etc. Et que vous sortez de la retraite, non pas en disant « je vais choisir de démissionner et de prendre tel autre métier », mais vous sortez de la retraite en disant « il faut que je change ma manière de travailler avec les autres ». Ça veut dire vous convertissez votre cœur et non pas d'avoir une solution A qui est la bonne, qui serait la volonté de Dieu, contre la solution B.
Sylvie Robert, une réaction?
Oui, je voudrais souligner aussi que tout ce chemin des exercices, il se fait en entrant plus profondément en relation avec le Christ. Et c'est là où il y a une différence entre l'intériorité que recherchent beaucoup de nos contemporains et l'intériorité que vont aider à travailler les exercices et toute la spiritualité chrétienne. C'est une intériorité relationnelle. Et en réalité, le chemin des exercices, c'est un chemin de connaissance intérieure du Christ, de découverte du chemin que le Christ lui-même a fait. Et à ce contact, en le contemplant, eh bien, c'est la liberté de l'être humain qui va pouvoir peu à peu s'ajuster. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir prendre une décision. Parce que on reviendra sans doute sur la question des colonnes, mais d'abord, c'est beaucoup plus complexe que deux colonnes. Et surtout, c'est à l'intérieur d'une entrée en relation avec le Seigneur.
On se pose une question ce matin dans Je pense donc j'agis, à quelques jours du premier tour des élections législatives. Comment discerner ce qui est juste et qui va dans le sens des valeurs évangéliques? On prend l'exemple des exercices spirituels de Saint Ignace. Vous avez la parole pour témoigner. Est-ce que la prière d'ailleurs vous aide dans votre vie de citoyen? Connaissez-vous les exercices spirituels de Saint Ignace? Les avez-vous déjà pratiqués? Ou alors est-ce que vous aimeriez peut-être tenter cette expérience? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos deux invités, Véronique jusqu'à 10h, Bruno Régent, jésuite et accompagnateur spirituel, ainsi qu'avec Sylvie Robert, religieuse auxiliatrice.
Bruno Régent, ce qui me frappe dans les propos que vous avez tenus, l'un et l'autre, c'est le grand pragmatisme. On a le sentiment que il s'agit à la fois de quelque chose de très spirituel, de très intérieur, et en même temps de très concret. Dans l'exemple que vous avez choisi, je m'attendais à quelque chose de très spirituel. Vous avez parlé de choisir de quitter ou pas son entreprise.
Oui,
ça marche aussi pour ce genre de décision.
Tout au quotidien, sans cesse, nous avons à décider des micro-choses. Et la question, c'est quel est le cœur qui m'anime au long des journées? Est-ce que c'est un cœur qui est ouvert à l'autre? Est-ce que c'est un cœur qui est préoccupé, qui est soucieux, qui cherche de la reconnaissance? Est-ce que je suis dans une volonté d'emprise? Est-ce que je suis complètement enfermé dans mes émotions, dans mes peurs? Voilà. Et donc, le travail spirituel, et le rôle de la prière en particulier, c'est d'essayer de me déposer, d'entrer dans quelque chose de l'altérité, comme disait Sylvie, j'ai à entrer dans ce Christ qui m'ouvre à complètement autre chose.
Mais dans le quotidien, dans des choses très concrètes, très profanes parfois, mais est-ce qu'il y a du profane dans nos vies finalement? Est-ce que tout n'est pas... Il n'y a pas de frontière entre ceux qui relèveraient de la vie spirituelle et ceux qui relèveraient de notre vie concrète, quoi.
C'est-à-dire, vous n'avez pas à imaginer un Dieu qui dit « vous devez choisir A parce que c'est écrit dans un grand livre et que B, c'est le mauvais choix ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu nous fait confiance. Et nous avons à travailler pour que notre cœur se convertisse. J'allais dire, c'est le premier mot de l'évangile de Marc, c'est « convertissez-vous ». Et si nous avons un cœur ouvert, ouvert à l'altérité, ouvert à la parole de Dieu, ouvert à notre intimité, Dieu nous fait confiance et il nous laisse choisir.
Sylvie Robert, est-ce que ça prend beaucoup de temps tout ça? Là, par exemple, on a une échéance, c'est la semaine prochaine. Mmh. Donc, évidemment, on ne va pas vous demander une consigne de vote, mais de peut-être nous aider à trouver quelques moyens, se mettre en situation et en disponibilité intérieure pour nous essayer de discerner ce qui nous paraît le plus juste.
Oui.
Mais ça prend non?
Plus ou moins, mais je voudrais auparavant revenir sur la question que vous posiez précédemment, sur le profane, le spirituel. Bon, je crois très important de ne pas oublier que le spirituel, c'est pas un domaine à part. Il ne s'agit pas de se dire ce qui est spirituel, c'est quand on parle de Dieu ou quand on prie ou bon.
Ou qu'on célèbre.
Bien sûr, notre vie entière est appelée à devenir spirituelle, c'est-à-dire inspirée par l'esprit, l'écoute de l'esprit. J'ai beaucoup aimé que Bruno tout à l'heure commence par parler de l'écoute. Et en fait, le spirituel, c'est toute notre vie mise sous la lumière de Dieu, et donc toute notre vie avec le plus concret, toutes les circonstances. Ignace lie beaucoup le discernement aux circonstances de temps, de lieu et de personne, c'est-à-dire au très concret, au très réel. Parce que notre Dieu, il est l'ami du réel, et pas de l'imaginaire ou de l'idéal de soi que on peut quelquefois entretenir avec des propos pieux.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles absolues, de choses à plaquer. Dans telles circonstances, il faut faire ça. L'évangile n'est pas une recette de cuisine, quoi.
Non, et l'évangile ne nous dit pas ce qu'il faut faire dans les détails des multiples décisions. Mais en même temps, nous avons une référence fondamentale avec l'Évangile et avec l'Écriture, parce que c'est en fréquentant l'Écriture qu'on se familiarise avec le désir que Dieu a pour l'humanité. Alors, c'est résumé dans le Nouveau Testament, dans le double commandement, « Aimer Dieu et le prochain ». C'est résumé aussi dans le passage de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 10, le verset 10. Moi, je dis, c'est ça la meilleure définition de la volonté de Dieu.
C'est-à-dire
Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. C'est-à-dire pour qu'on la déploie aussi. Et donc, en fait, la première chose importante, c'est de se remettre devant la parole de Dieu et d'écouter justement les résonances de cette parole de Dieu qui nous éclaire.
Alors, de manière très concrète, Bruno Régent, là, vous avez tous les deux utilisé des termes, vous avez parlé de motion intérieure, vous avez parlé de la volonté de Dieu. Comment on s'y prend ? Vous, comme accompagnateur, comment est-ce que vous accompagnez, vous aidez des personnes à discerner, à se mettre à l'écoute de ce qui se passe en eux ?
J'écoute.
Qu'est-ce que vous écoutez ?
J'écoute quelqu'un qui essaye de dire quelque chose de sa vie. J'écoute la matérialité des mots. J'écoute ses expressions corporelles, parce qu'au-delà des mots, il y a un peu tout son corps qui réagit. Et j'essaye d'écouter comment Dieu travaille à l'intérieur de son corps et de son âme. Et puis, je m'interroge sur, en moi, qu'est-ce qui écoute ? C'est-à-dire, est-ce que, comme accompagnateur, j'ai une volonté sur lui ? Est-ce que je me dis, oh oui, quand même, ce jeune, j'ai envie qu'il devienne ceci ou cela ? Ou est-ce que le lieu qui écoute en moi, c'est ce Dieu qui veut la vie pour l'autre ? Et du coup, je peux ne rien dire, être dans le silence. Et cette personne qui se fait accompagner éprouve l'expérience d'être simplement écoutée. C'est étonnant, mais dans la vie, quand quelqu'un est écouté, ça change son existence.
Et alors, qu'est-ce qui peut se passer en elle et dont vous êtes témoin ? Donnez-nous des exemples. Ces fameuses motions-là, qu'est-ce que c'est ?
Je vais prendre un exemple de la vie d'Ignace, puisque vous preniez Ignace.
Quand on parle d'Ignace, il s'agit d'Ignace de Loyola. Voilà. Je le rappelle pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, le fondateur des Jésuites.
Il est pris au début de sa vie de conversion d'une très grande générosité. Et il se dit, mes habits qui sont nobles, qui sont beaux, etc., je vais les donner à un pauvre et me mettre à la suite du Christ, en prenant la livrée du pauvre. Et le voilà parti avec ses loques, etc. Et voilà que quelqu'un court après lui et lui demande, il y a un homme qui est bien habillé, on le connaît bien, c'est un mendiant, c'est un pauvre, est-ce que c'est pas lui qui vous a volé vos habits ? Et Ignace se retrouve tout ému de se dire, ma générosité débordante, mon idéal de suivre le Christ, en fait, a blessé quelqu'un. Et que du coup, il découvre qu'il y a une manière d'être qui n'est pas seulement de se projeter dans l'idéal de ce que je pense être suivre le Christ, mais quel effet ça a sur les autres.
Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, si on va au bout, ça peut ne jamais s'arrêter ? C'est-à-dire
Absolument.
Qu'il y a toujours quelque chose de plus subtil, de plus fin à
Alors, si, ne à jamais trouver. S'arrêter, c'est vous n'êtes jamais dans de la certitude. C'est-à-dire, vous avez toujours à rester dans l'écoute. Par contre, il y a un moment où il faut décider, parce que c'est une maladie de ne pas savoir décider. Et si vous voulez décider en étant sûr d'une pureté, c'est imaginaire et vous n'y arriverez jamais.
Mais l'indécision n'est pas bonne.
Il faut décider.
Alors Sylvie Robert, quand est-ce qu'on sent, quand est-ce qu'on sait que là, je suis en mesure de décider ? J'ai tous les éléments qui me permettent là d'y aller, de faire un choix.
Alors, ça demande d'abord une certaine préparation, mais une préparation, je dirais, de longue haleine. C'est là où la fréquentation de l'Évangile, l'habitude de l'écoute, forge en nous des réflexes évangéliques. Et vous voyez, à ce moment-là, c'est pas du tout de commencer par se dire « qu'est-ce que je vais prendre comme décision ?» Et de ce point de vue-là, moi j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Bruno sur la manière dont il écoute dans l'accompagnement. J'ajouterais que moi j'écoute aussi en essayant d'écouter à quel niveau de profondeur la personne écoute en elle. Vous avez des personnes qui sont au niveau du raisonnement. La raison, elle est très utile, mais ça suffit pas pour décider. Vous en avez d'autres qui sont au niveau de l'émotionnel, l'affectif. Oh, bah, telle chose, ça c'était formidable, ou ça m'a blessé. Bon, et qui n'arrivent pas à descendre plus profond. L'écoute plus profonde, c'est au fond, et c'est là où les mouvements intérieurs, ces fameuses motions, sont très importantes. L'écoute plus profonde, c'est, mais au fond, où est-ce que le Seigneur me parle à travers ça? Où est-ce qu'il y a un mouvement de fond qui conduit davantage à aimer?
On va marquer une petite pause, Sylvie Robert et Bruno Régent. On va se retrouver dans un instant, toujours pour parler de ce discernement et des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Hein. On accueillera Brigitte, d'ailleurs, au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler pour nous parler de ces exercices. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et il y a une semaine du premier tour des élections législatives, on se demande comment discerner ce qui est juste et qui va dans le sens des valeurs évangéliques. On le fait à travers les exercices spirituels de Saint Ignace et vous avez la parole pour en discuter avec nous au 04 72 38 20 23 ou directement dans notre groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Un peu de musique, on se retrouve juste après.
I was younger, I want a big life. I would lie awake at night. I would stare, I would sing to the ceiling. Were you listening? Ooh, you brought me here to a city of dreams and fears. Ooh, what do I do from here? I will trust in you.
I will trust. C'était Mélanie Penn pour vous accompagner en ce lundi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et bonjour Brigitte.
Bonjour, merci pour votre émission.
On vous écoute.
Merci pour ce, voilà, ce beau thème. Moi, il me donne l'occasion, ce beau thème que vous avez choisi aujourd'hui, de saluer la mémoire du père Étienne Garin, jésuite, qui était aumônier à l'école polytechnique, et de Geneviève Constant, sœur Geneviève Constant, puisqu'ils ont, pendant des années, animé les 30 jours de Saint-Ignace de Loyola, dans le centre de la France, avec de nombreux participants, nous étions 80, avec le matin, la matinée, une contemplation de la parole, et l'après-midi, des partages en petites communautés. Nous étions une dizaine par communauté, et ça a été vraiment éprouvant, mais formidable, pour avancer dans la foi, dans l'amour de Dieu et du prochain, et dans l'écoute de la parole, que je crois avoir appris à pratiquer un peu depuis ce temps-là. Oui.
Merci beaucoup Brigitte pour votre appel au 04 72 38 20 23. Bruno Réjean, une réaction?
Je me réjouis toujours d'entendre des personnes qui profitent, font du chemin, ouvrent leur cœur, apprennent à discerner et restent avec ce cœur ouvert qui cherche et trouve.
Alors, revenons-en ou venons-en à ces fameuses émotions dont vous avez parlé au début, qui peuvent être considérées comme un critère de discernement. On peut ressentir de la colère, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir de l'enthousiasme quand on se projette dans telle ou telle situation. Sylvie Robert, au fond, est-ce que ça n'est pas suffisant ?
Non, ça n'est pas suffisant.
Parce et pourquoi que,
mais parce que justement, à travers les réactions spontanées, qui sont effectivement de la colère, de l'enthousiasme, il peut y avoir beaucoup de ce qui est mon intérêt propre ou ma volonté propre dont parlait Bruno en commençant l'émission. Et en réalité, évidemment, notre vie spirituelle, elle se vit à travers toutes les réactions que nous pouvons avoir, à travers notre psychologie, mais elle est de l'ordre de la relation à Dieu plus profonde. Et en fait, on peut par exemple vivre une émotion, une grande douleur, et en même temps, plus profondément, découvrir que c'est ce qui nous met en vérité ou en vérité devant Dieu ou compassion, en ouverture à autrui. Et vous voyez que c'est pas, l'émotion elle est présente, mais la motion elle est plus profonde.
Ouais. Bruno Réjean.
Ignace, au niveau des motions, il donne une définition de ce que c'est que la consolation et de ce que c'est que la désolation.
Et quand ça, ce sont deux termes clés.
Voilà. Et quand je regarde la définition de la désolation, c'est notamment, on se retrouve sans espérance, sans amour, paresseux, tiède, triste. Et je trouve que c'est intéressant de bien entendre ça. Je recevais il y a très peu de temps quelqu'un qui a été engagé dans un parti politique, et qui me disait « je suis découragé ». Vraiment, ce monde, je découvre que le leader que je suivais n'est peut-être pas si fiable que ça. J'entends par les médias qu'en fait, tout est pourri.
Donc tous les symptômes de la désolation, quoi.
Et du coup, ça veut dire il y a à entendre dans cette désolation un appel à se dire mais quel est ce regard que je porte? Pourquoi mon cœur est-il habité par des peurs, par le fait de me dire plus rien ne se passe, etc. Et le Christ nous appelle à nous convertir en disant mais écoutez, arrêtez, ce monde vous est confié et donc Dieu fait confiance en l'humanité qu'elle peut faire quelque chose à partir de ces réalités. Arrêtez de dire que tout est moche, etc. et trouvez comment grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité.
Et la consolation, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est « Ah, je grandis dans l'espérance ». Alors,
est-ce que ce n'est pas la méthode Coué ?
Non.
Pourquoi ? Non. Quelle est la différence ?
Ah ben, ça veut dire, si je reprends le contexte des élections, on peut se dire quel est mon choix ? J'allais dire très bien. Mais n'empêche que demain matin, après les élections, vous avez des relations de voisinage. Qu'est-ce que vous allez vivre ? Comment vous vous comportez avec votre voisin ? Qu'est-ce que vous vivez ? Les choix politiques au sens d'une vie collective commune dans une région, dans un quartier, dans une école, c'est tout le temps. On n'est pas dans c'est bien ou c'est mal en fonction du résultat des élections. C'est pas un chèque en blanc. C'est demain, quelle est l'attitude politique que je vais avoir globalement et qu'est-ce qui m'aide à faire grandir autour de moi de la confiance, de l'espérance.
En quoi ça m'engage finalement, mon vote ?
Alors,
c'est ça.
Il n'y a pas que mon vote qui m'engage, c'est l'ensemble de mon existence qui est à engager dans une vie commune. Je ne peux pas me retirer sur une île déserte en disant « le vote est fait, je n'ai plus rien à faire, je m'enferme et je me contente d'être dans la dérision en me disant « tous pourris ». Voilà, cette attitude n'est pas admissible.
Retournons au standard où nous attend Michel au 04 72 38 20 23. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Voilà, je voulais simplement apporter une précision un peu à propos du vocabulaire. Voilà, il se trouve que j'ai assisté à une retraite inspirée, je dis bien inspirée des exercices de Saint-Ignace.
Oui.
Et à un moment, le prêtre a dit « Eh bien, demain, nous allons parler des élections ». Et bon, moi j'étais complètement étonné, je dis mais c'était à la veille des élections européennes, que viennent faire les élections dans cette retraite spirituelle. Et en fait, il a précisé ensuite que les élections au 16e siècle, il y a tout un chapitre d'ailleurs de Saint Ignace qu'il consacre aux élections, n'avait pas du tout le même sens qu'aujourd'hui, que c'était, le terme était un équivalent de discernement. Vous avez parlé beaucoup de discernement. Donc on rejoint un peu ce que vous avez dit, mais le sens élection, au temps de Saint-Ignace, avait un sens complètement différent. Voilà le point que je voulais préciser.
Ah bah écoutez, c'est très intéressant. Michel, merci beaucoup pour votre message. Peut-être vous, Sylvie Robert, une réaction ? C'est important de replacer ça dans son contexte ?
Oui, alors c'est le contexte des exercices. Hein. Élection dans les exercices, c'est le choix. Mais avec l'aspect extrêmement important qui est que le terme élection, c'est à la fois je choisis et je suis choisi. Et donc, vous voyez, l'élection dans le sens de d'Ignace dans les exercices, c'est essentiellement pour un choix de vie ou une décision importante. Alors, évidemment, quand on parle ici, dans le contexte dans lequel nous sommes, des élections, c'est le vote que nous allons avoir à poser, qui est un choix. Mais ne confondons pas, de fait, le terme élection. Ouais. Voilà.
Alors, j'aimerais qu'on parle aussi d'un aspect dont vous avez parlé tous les deux, à savoir la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a une volonté ? Est-ce que Dieu attend de nous quelque chose de précis, Sylvie Robert ? Et c'est cette volonté qu'il faudrait chercher et puis finir par trouver. Ça y est, je la tiens, je sais ce que Dieu attend de moi.
Alors, le terme volonté de Dieu, il faut y faire très attention. Parce que la plupart du temps, moi quand j'entends en particulier des jeunes chrétiens qui cherchent à orienter leur vie, il y en a beaucoup qui sont embarrassés finalement et bloqués par cette idée de la volonté de Dieu, qu'ils comprennent comme si Dieu avait déjà décidé avant nous ce que nous devrions faire. Alors, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Hein, et j'aimais bien tout à l'heure que Bruno Réjean souligne l'aspect de d'engagement, repérer des consolations et des désolations, c'est pour pouvoir avancer et donc vraiment s'engager dans l'existence. Hein. Mmh. Donc Dieu n'a pas déjà tout déterminé avant nous. D'ailleurs, dans les exercices, le moment où se fait le choix, et c'est un signe que le choix est, c'est un des signes que le choix est sans doute assez juste, c'est un moment où on choisit, c'est pleinement moi qui choisis, 100% moi qui choisis, mais je reçois ce choix. J'ai fait l'expérience de recevoir ce choix. Et donc, c'est, moi j'aime bien dire, c'est 100% Dieu, 100% moi, mais ça ne fait pas 200%. C'est oui. une union des désirs. Voilà.
Bruno Réjean.
Oui, dans la prière du Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. Et on pourrait penser que cette prière, du coup, nous demande d'aller rejoindre une volonté de Dieu dans un grand livre ou ailleurs. Et en fait, je pense que quand nous disons que ta volonté soit faite, nous disons je ne veux pas que ce soit mes caprices ou ma volonté propre ou mon ego qui domine en moi. Je veux que ça vienne d'un tout autre qui m'appelle à la vie. Et le travail des exercices, le travail de la prière, le travail spirituel, c'est de purifier mon cœur pour qu'effectivement je quitte tous les désirs d'emprise, de possession, de reconnaissance de mon ego, etc. Et au cœur de cet intime travaillé par la parole de Dieu, je peux entendre Dieu qui me dit « Oui, ton cœur se purifie, eh bien, que ta volonté soit faite. » Dieu me renvoie la même phrase.
Dieu nous dit que ta volonté soit faite.
Oui, si effectivement cette volonté n'est pas une volonté propre au sens de devenir je ne sais pas quel roi, quel fantasme, etc. Mais il me dit, si tu vas au cœur de ton cœur, à l'intime, où Dieu est au plus profond, oui, adhère à cette volonté qui est en toi profonde.
Donc c'est notre liberté qui est à exercer.
Voilà, c'est nous avons à devenir libres. Voilà. Pour dire aussi le type de conversion, voilà, je trouve que il y a un certain nombre de personnes qui ne se rendent pas compte d'avoir fait l'expérience d'être aimé gratuitement. C'est-à-dire qui imaginent qu'il faut vivre à partir de grands principes. Et comme si leur vie, c'était de vivre à partir des grands principes.
Et de en respecter fait, les règles.
Voilà. Et en fait, quand quelqu'un fait l'expérience d'avoir fait une grosse bourde et d'avoir fait mal à l'autre, et qu'il est le sujet de pardon, de miséricorde, du coup, sa vie change parce qu'il se rend compte que il ne mérite rien. Et on lui donne de vivre, et on lui ouvre la vie. Et du coup, ça change son horizon dans le rapport aux autres. Il se dit, de fait, je n'ai plus à cataloguer les gens en « ils font bien, ils font mal », etc. Il a exercé un regard de bonté sur les autres, quelles que soient les apparences.
Sylvie Robert, la conscience dans tout ça, c'est la fine pointe, le fort intérieur, c'est ça, c'est la fine pointe de la liberté qui est au fond du cœur de chacun et qui est révélée dans une intimité avec Dieu.
Alors, la conscience, c'est le sens profond que auquel nous sommes accordés si notre conscience est éduquée et si elle est libéré, c'est ce qui permet de dire ça, ça va pas, ou de dire ça, c'est vraiment conforme à au projet de Dieu pour l'humanité. Mais les mouvements intérieurs, c'est, je dirais, d'un autre ordre. que la conscience. Hein, parce que, de fait, hein, les mouvements intérieurs, ce sont des signaux hein, qui nous disent comment Dieu nous parle, non pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous-mêmes, et en nous mettant dans une paix profonde et en étant unifiés.
Ça, c'est un critère important, hein, je crois, dans le oui. discernement. C'est la paix oui, intérieure et la joie.
Mmh. Oui. Oui, mais une joie qui peut être très sensible, mais qui peut aussi être une joie comme celle de la résurrection,
c'est-à-dire
qui est très discrète et qui se traduit dans les actes. Vous voyez, moi j'aime bien présenter la consolation et la désolation, et surtout en reprenant des exemples de l'Évangile, et en particulier Emmaüs. Les deux disciples d'Emmaüs, ils repartent hein, après la passion, après la mort de Jésus. Ils sont dans la désolation. Hein, il n'y a plus d'avenir. Bon, ils sont tout tristes. Et puis, voilà Jésus qui les rencontre, qui leur explique l'Écriture. Et après coup, ils se disent, tiens, mais oui, quand il était là, quand il nous expliquait l'Écriture, notre cœur était tout brûlant. Bon, c'est bien de l'ordre d'une émotion, ça, hein,
oui.
mais hein, de quelque chose de... ils ont découvert que c'était la rencontre de Jésus et sa parole, et donc pas seulement l'émotion hein, qui les avait dynamisés. Et puis ensuite, hein, une fois que ils ont pris le repas avec Jésus et que Jésus a fait la fraction du pain, après ce moment-là... Hein, Jésus a disparu de devant eux, mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont retrouver les frères et annoncer. Et on ne parle plus à ce moment-là d'une joie émotionnelle, on parle même plus de joie dans ce passage-là. Mais en fait, ça se traduit dans les actes, et c'est ça la joie de la résurrection.
Continuons de vous entendre au 04 72 38 20 23. Bonjour Véronique.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai souhaité demander en fait si les invités pouvaient recommander des ouvrages relativement simples pour justement effectuer ce travail de questionnement qu'ils préconisent. Mmh. Parce qu'en fait, j'entends qu'effectivement... Et c'est tout à fait la façon dont je conçois les choses quand on dit que ta volonté soit faite. C'est effectivement d'essayer de discerner quel est ce que Dieu désire au-delà de notre propre ego, au-delà de nos désirs qui apparaissent comme ça spontanément. Mais ce travail que j'essaye d'effectuer moi à côté, mais vraiment en relation avec Dieu... me paraît très très long, me paraît être le travail oui. de toute une vie en fait. Ça rejoint quand même, me semble, hein, la démarche psychologique malgré tout.
Merci beaucoup Véronique pour cette question. Bruno Régent, que oui, peut-on dire à Véronique ?
Ah, au niveau de la littérature, c'est vrai qu'il y a des livres qui ne parlent pas et des livres qui parlent. C'est-à-dire, il y a des livres qui, effectivement, ouvrent, et en particulier, ouvrent sur la vie et sur une manière d'aborder l'écriture qui fait qu'elle devient vivante. Voilà, c'est-à-dire...
Mais est-ce qu'il existe des ouvrages qui peuvent permettre de s'approprier ces critères de discernement et puis ce discernement ignatien qui a fait l'objet de cette émission, Bruno Régent ?
Oui.
Où rien ne vaut un accompagnement spirituel.
Ah, c'est deux choses complémentaires. Il n'y a pas à les mettre dans la balance en disant il y en a un plus que l'autre. Mais pour moi, toute la collection des éditions Vie chrétienne, par exemple, n'arrête pas d'essayer de dire des choses de manière simple sur comment avancer, comment lire l'écriture, qu'est-ce que c'est que discerner, et propose des mises en situation d'exercice. C'est je m'exerce, je fais des petits choix et je relis et j'apprends à diriger ma vie à partir de cette expérience.
Est-ce que vous êtes parfois heurté ou agacé par la manière dont les écritures, dans ce contexte préélectoral, peuvent être convoqué pour justifier telle ou telle option politique et finalement être l'objet d'une instrumentalisation.
Voilà, disons de manière générale, et c'est pas seulement à l'occasion des élections.
Mais là, ça saute peut-être plus aux yeux que d'habitude.
Oui, enfin, disons, j'essaye sans cesse de sortir les écritures du prêt-à-penser. Voilà, voilà. Quand on sait trop ce que l'écriture veut dire et doit dire dans le concret, y a rien à faire. Je soupçonne. Il faut remettre l'écriture dans un écart pour qu'elle parle et que je puisse parler et qu'on se situe l'un en face de l'autre et qu'on fasse du chemin. Si on me dit ce que l'écriture me dit, je deviens sourd.
Sylvie Robert ?
Très recommandé un ouvrage et un article face à la question qui a été posée tout à l'heure.
Par Véronique.
Dans la collection Vie chrétienne, justement. Ce qu'il y a de meilleur sur le discernement, pour se familiariser avec le discernement, c'est le petit livret de Jean Gouverneur, Mener sa vie selon l'esprit. Le premier tome. C'est déjà un peu ancien, mais c'est excellent et justement, ça permet de bien situer les choses et de les situer en regardant sa propre vie. Et puis, sur la volonté de Dieu, évidemment, vous trouvez ça sur Internet, l'article de Michel Rondet, « Dieu a-t-il une volonté particulière sur chacun de nous ?» Ça, c'est un article qu'il faut absolument lire. Si on sent que soi-même on a quelques difficultés par rapport à la volonté de Dieu, ou si on rencontre des personnes qui pensent la volonté de Dieu comme un oukase, en plus un oukase qu'il faudrait déchiffrer, qu'on connaît pas. Voilà.
Mais concernant l'instrumentalisation cette fois de la parole de
Dieu. L'instrumentalisation, évidemment, c'est le contraire de l'écoute. Vous voyez, je me saisis de l'écriture, en général d'ailleurs en prenant un verset isolé de son contexte, et puis je justifie mes positions à partir de là. Ça, c'est pas l'écoute, voyez. Mais je vois que le temps passe
oui.
Et peut-être qu'il faudrait quand même aborder les manières de discerner que propose Ignace un peu plus précisément en cas de choix.
Alors allons-y, il nous reste effectivement très peu de temps.
Voilà, parce que l'écoute des mouvements intérieurs à partir de l'écoute de la parole et de l'écoute des événements. Ce sont déjà des éléments qui peuvent beaucoup nous éclairer. Et du coup, vous voyez, il n'y a pas besoin d'un temps considérable. Peut-être que déjà, un certain nombre d'auditeurs, en ayant cette écoute de la parole, cette recherche du Christ au long des jours, peuvent assez facilement, sans un temps énorme et sans un gros processus, découvrir dans quel sens ils vont choisir leur bulletin de vote. Bon, si je n'ai pas assez de lumière, ce qui est très important, c'est d'instruire le dossier, c'est-à-dire de prendre le temps de vraiment s'informer. Et pas seulement de regarder vite fait un slogan ou l'autre, mais de s'informer, d'accueillir et de repérer les réactions spontanées que je peux avoir, qui peuvent être de colère ou d'enthousiasme ou autre, mais ensuite de me remettre devant l'appel de l'Évangile. Et face à l'appel de l'Évangile, de pouvoir voir dans quel sens je me sens portée à choisir mon bulletin de vote. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des deux colonnes aussi, avec l'usage de la raison. Bon, et je disais, c'est un peu plus complexe que cela, parce qu'en fait, d'abord, il y a quatre colonnes, il n'y en a pas deux. Et il y a d'abord tout un chemin pour se mettre en disposition pour écouter le Seigneur. Et en fait, on va ensuite regarder, mais sur la base de cet appel fondamental du Seigneur à déployer la vie, ce qui est avantage ou inconvénient à prendre telle décision ou à ne pas la prendre. Et donc, vous voyez, ça fait quatre colonnes. Et ensuite, je vais pouvoir peser avec ma raison ce qui est ce qui a le plus de poids et me remettre à Dieu avec cela en lui demandant de confirmer. Voilà.
Merci beaucoup Sylvie Robert pour ce résumé en quelques minutes du discernement selon Saint Ignace. Je rappelle que vous êtes religieuse auxiliatrice. Merci beaucoup également à vous Bruno Régent d'avoir été avec nous. Vous êtes jésuite et accompagnateur spirituel à Lyon. Merci à tous les deux. Et c'est encore à vous Melchior.
Oui, on continue dans un instant. À tout de suite.